quand devoir précisément comment acquérir la sagesse, parce que c'est le but de ce cours, je pose la question évidemment, qu'est-ce que la sagesse? Définition traditionnelle de la sagesse, telle qu'on la trouve chez les philosophes, comme Aristote, la connaissance de la fin. Connaissance de la fin ultime, c'est-à-dire en définitive connaissance de Dieu. Et dans la lumière de la révélation, on peut dire plus précisément connaissance du royaume de Dieu, puisque Dieu nous a créés pour entrer dans son royaume. Connaissance du dessein de Dieu, on pourrait dire aussi, du dessein éternel de Dieu, comme dit saint Paul. Donc, la sagesse, c'est d'abord cela, perception du mystère, du mystère de Dieu, et c'est en même temps une perception des choses, de la réalité, dans la lumière de cette fin ultime. Le propre du sage, c'est Aristote, je crois, qui dit cela déjà, dans un regard de sagesse philosophique, il dit que le propre du sage, c'est de voir l'ordre des choses. Voir comment les choses s'articulent en référence à la fin ultime. Vous comprenez que plus on s'élève dans la connaissance de la fin, parce qu'on pourrait distinguer différentes fins, des fins intermédiaires. Par exemple, on peut dire qu'une des fins du mariage, c'est la procréation. Mais ce n'est pas la fin ultime du mariage. Et on pourrait dire que une des fins du travail, c'est de pouvoir participer au bien commun de la société, mais ce n'est pas la fin ultime non plus. Et plus on s'élève vers la connaissance de la fin ultime, et plus on est capable d'ordonner tout, et de voir tout dans la lumière de cette fin ultime. Un peu comme celui qui monte sur une montagne, plus il s'élève et plus l'horizon est vaste, plus il couvre l'ensemble de la réalité. Le propre du sage, c'est de voir les choses dans la lumière de la fin, dans voir leur place. Pendant les vacances, à un moment, je me suis trouvé dans une sacristie, où j'ai eu un choc salutaire, j'ai vu une pancarte, il y avait marqué une place pour chaque chose, chaque chose à sa place. Vieille sacristie, 19e, avec des tiroirs et des petites étiquettes sur chaque tiroir. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Alors je l'ai écrit, je l'ai mis dans ma chambre. Plutôt dans mon bureau. Eh bien, le propre du sage, c'est de bien voir la place de chaque chose. Et même, vous voyez, même au niveau matériel. Et quand on voit la place, quand on donne une place à chaque chose, on finit par mettre chaque chose à sa place. Et si on n'a pas trouvé une place pour chaque chose, enfin, c'est un petit conseil pratique, je vous donne. Alors, au niveau matériel, c'est évident que la sagesse, c'est de bien ordonner les choses, mais je me suis rendu compte qu'en ordonnant bien les choses dans mon bureau, ça les aidait à les ordonner dans ma tête. Alors, l'ordre des choses dans la tête, c'est encore plus essentiel, mais l'un va bien avec l'autre. Donc, je dis le propre du sage, c'est de voir l'ordre de ce qu'il connaît la fin, c'est logique. C'est en même temps, indissociablement, de voir le sens des choses. On les met à leur place parce qu'on voit leur valeur réelle par rapport à l'ensemble. on en perçoit le sens. Le sens du mariage, le sens de la famille, le sens du travail. Bien, nous aurons le temps de développer cela. Mais je pose tout de suite la question, la sagesse, la connaissance de la fin, c'est quel type de connaissance ? Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes convaincu que vous avez été créé par Dieu et pour Dieu. Donc je ne vous apprends rien en vous disant que la fin ultime, c'est Dieu, c'est le royaume de Dieu. Normalement, tout bon catholique en est convaincu. Et pourquoi ne sommes-nous pas plus sages que ça ? Alors qu'apparemment, nous connaissons la fin ultime. Pourquoi il y a tant de catholiques qui vivent une vie désordonnée ? Question qu'on peut se poser à un moment où on a un pape qui n'a pas peur de l'autocritique, qui appelle le christianisme à l'autocritique dans son encyclique d'Oman, mais à d'autres occasions aussi, il a parlé d'autocritique. Et je poserai même la question, pourquoi toute une jeunesse est-elle allée chercher la sagesse ailleurs que dans le christianisme ? J'accompagne une personne qui a été 17 ans en ashram, première génération, 68 ans, partie en Inde, chercher la sagesse, entre guillemets. Eh bien, la raison, c'est que nous avons perdu le sens de cette connaissance qui est nécessaire pour acquérir la sagesse, qui constitue la sagesse, on peut dire, qui s'appelle la contemplation. Pour comprendre ce qu'est la contemplation, il faut déjà distinguer connaissance, comme disait Jean-Paul, le notionnel, on pourrait dire intellectuel, qui comprend à partir du concept, grâce au concept, donc quand on a des idées claires, c'est déjà bien, quand on a de bonnes idées, des convictions religieuses qui sont justes et bonnes, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour changer la vie. Ce n'est pas suffisant pour changer réellement l'intelligence de l'intérieur. Ce qu'il manque, c'est ce que j'en veux dire, mais aussi le contact avec le mystère. On va parler comme ça, contact. On pourrait dire le toucher, c'est le père Marie-Dominique Philippe qui aimait dire que l'intelligence était capable de toucher la réalité. L'esprit de l'homme est fait pour rejoindre, pour atteindre la réalité dans son fond, le tréfonds de la réalité, au-delà des concepts. Qui ne peuvent pas exprimer, qui restent des mots humains et qui ne sauront jamais exprimer la profondeur de la réalité. Vous savez comment les pères de l'Église définissaient l'intelligence ? Dans la lumière de l'Évangile, si on regarde l'Évangile, la manière dont Jésus parle de l'intelligence, c'est toujours avec l'analogie avec l'œil, celui qui voit. Celui qui est aveugle. Je suis venu pour un discernement, pour que ceux qui sont aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Bien, l'intelligence, chez les pères d'Église, c'est l'œil de l'âme. C'est un œil d'intelligence. L'intelligence, elle est faite pour voir. Elle n'est pas faite pour raisonner d'abord. Pas fait pour saisir des concepts et s'en emparer, pour élaborer des raisonnements qui peuvent être justes, mais qui ne signifie pas pour autant qu'on ait rejoint la réalité elle-même. Personnellement, j'ai mis des années à sortir de l'idéalisme et à retrouver ce que le Père Mère et Dominique Philippe aimaient appeler à l'écoute de bien d'autres, le réalisme de l'intelligence. Mais nous sommes dans un monde où, pour une grande part, nous avons perdu la foi en l'intelligence, je veux dire dans la capacité qu'a l'intelligence de rejoindre réellement la réalité. On nous a laissé croire que l'intelligence n'était capable que de jeter comme des filets conceptuels sur le réel, que de modéliser le réel à partir de concepts, mais sans pouvoir rejoindre le réel lui-même. Mais c'est faux. C'est faux et en même temps c'est vrai, au sens où on peut rester enfermé dans une intelligence raisonneuse, dans le mental. Mais c'est faux au sens où l'homme est capable de contemplation. Alors, comment passer d'une connaissance intellectuelle de la fin, je sais que je suis créé pour Dieu, à une connaissance contemplative du mystère, d'une intelligence qui raisonne, une intelligence qui voit, l'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs. L'intelligence qui voit peut être aussi une intelligence qui raisonne. Mais le raisonnement doit être au service de la perception. Dieu, lui, ne raisonne pas. Il voit toutes choses d'un seul regard. Il n'a pas d'idée, il n'a pas de concept. Nous, les humains, nous avons à la fois, notre intelligence est créée à l'image de Dieu, elle est donc capable de voir, mais elle a aussi besoin des concepts pour mieux saisir ce qu'elle voit. Mais c'est une limite de notre intelligence, comme l'explique saint Thomas d'Aquin, le fait qu'elle ait besoin de concepts, de mots. Dieu, lui, n'a pas de mots. Il n'a pas d'idée. Il n'est que pur regard. Pensez au danger des concepts par rapport à une personne. On peut contempler une personne, évidemment. C'est même la réalité créée qui est le plus contemplable, si je puis dire. Vous rencontrez une personne, vous commencez à percevoir la beauté intérieure. Et après, on vous demande comment elle est. Vous sentez le décalage entre ce que vous avez perçu et les mots. Elle est bien plus que les mots que vous pouvez dire. De toute façon, il y a l'unicité de la personne qui est là et que vous allez toucher dans ce regard qui a rejoint le tréfonds de son être. Je dis ça en pensant à une jeune femme qui a rencontré un jeune homme et qui a eu cette grâce d'en percevoir, dès la première rencontre, de percevoir le cœur de la personne, au-delà de sa personnalité psychologique, et ce qui fait qu'elle vit une relation où elle n'est pas dans un sentiment amoureux psychologique, elle n'a pas eu le coup de foudre, mais elle a perçu la beauté de la personne, intérieure. Ça, c'est très rare. Ça suppose une intelligence contemplative. De fait, elle a une intelligence contemplative autant que je puisse en juger. Mais ça a dû être le cas dans la rencontre de Marie avec saint Joseph. Marie a dû percevoir la beauté intérieure de Saint-Joseph. Elle a dû savoir dans son cœur que c'était l'homme que Dieu lui donnait pour le protéger, pour l'aider dans la réalisation de sa vocation. Je ferme la parenthèse. Cette connaissance intérieure de Dieu, donc, qu'est la contemplation. La contemplation devant la contemplation de Dieu. Mais à partir du moment où je contemple Dieu, je peux contempler aussi la réalité, précisément dans ce cas-là, que je vous ai cité. La personne a vu en fait l'autre dans la lumière de Dieu. Dire je connais Dieu intérieurement, et cette connaissance de Dieu devient une lumière pour mon intelligence qui perçoit la réalité dans cette lumière du mystère de Dieu qui est lumière. Donc le contemplatif, c'est celui qui voit Dieu et tout en Dieu, et qui voit tout en Dieu. Parce qu'il voit Dieu. Tout dans la lumière de Dieu. Mais tout dépend radicalement de la perception intime, intérieure du mystère de Dieu, de la profondeur de cette perception. Ensuite, on a un regard contemplatif sur toute la réalité. Dont on perçoit le sens intérieurement, de manière de plus en plus fine. La beauté, la vraie valeur, la vérité des choses. C'est ce qui fait dire à saint Paul, l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel, c'est le contemplatif, il juge de tout. Il voit tout en vérité. Parce que, pour dire les choses d'une autre manière, à partir du moment où je connais Dieu intérieurement, je rentre dans le regard de Dieu. Je connais à la manière de Dieu. J'entre dans la pensée de Dieu. Personne ne disait, essayez de penser comme Dieu pense. C'est impossible humainement. Mais si on connaît vraiment intérieurement Dieu, dans cette relation contemplative qui est évidemment aussi une relation amoureuse, une relation d'amour, eh bien, progressivement, on rentre de fait dans la pensée de Dieu. Ce qui fait dire à saint Paul, en même temps qu'il dit « l'homme spirituel juge de tout », il dit « nous l'avons, nous, la pensée du Christ ». Qui a connu la pensée du Seigneur ? Nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Pourquoi ? Parce que nous connaissons le Christ intérieurement et nous rentrons dans sa pensée. Dans sa pensée sur les choses. Sur les situations. Alors, je reprends l'image de la montagne. Vous voyez, la contemplation, évidemment, c'est par degrés. Donc, je monte sur la montagne de la connaissance de Dieu. Jusqu'au sommet de la connaissance de Dieu qui correspond à la sainteté, mais je n'attends pas d'être un saint pour rentrer dans la contemplation, mais je monte progressivement sur cette montagne. Quand on monte sur une montagne, on fait le tour plusieurs fois, et on revient sur des perspectives qu'on a déjà vues, mais on les voit de plus haut. Eh bien, le sage, il fonctionne comme ça. Enfin, celui qui est sur un chemin de sagesse, qui approfondit la sagesse, il perçoit certaines choses à une certaine profondeur au moment de sa vie, il va percevoir d'autres choses. Imaginons qu'un an ou deux ans après avoir perçu une chose, il va repenser à cette chose, il va la voir dans une lumière encore plus profonde, nouvelle. Et deux, trois ans après, il reverra encore dans une lumière plus nouvelle et sa perception de la réalité ne cesse de s'approfondir au fur et à mesure qu'il monte plus haut jusqu'au sommet. En fait, le sommet, on n'aura jamais fini de l'atteindre sur cette terre. On peut toujours grandir dans la connaissance de Dieu. Il semble que la Vierge Marie soit allée jusqu'au bout de la connaissance de Dieu, elle a elle-même grandi dans la contemplation. Et il semble que la Vierge Marie soit allée jusqu'au bout de ce que l'esprit humain pouvait supporter de connaissance de Dieu, si je puis dire, sans mourir. Qu'elle est partie dans une extase qui est celle d'une connaissance de Dieu tellement profonde, tellement prégnante, tellement intime, qu'elle a été élevée corps et âme dans le ciel. Puisque nul ne peut voir Dieu sans mourir. Le voir d'une claire vision, évidemment. Évidemment, quand je dis contemplation, voir Dieu, je ne parle pas d'une claire vision. S'il y avait une claire vision, bien nous en mourrions tout de suite. Il y a une autre image que j'ai trouvée chez Marie de la Trinité qui me parle beaucoup. C'est l'image quand la mer monte, ces vagues qui se recouvrent les unes les autres en allant toujours plus loin pour, je dirais, s'étaler sur la plage, qui fait que, vous voyez, vous avez une première une lumière sur certaines choses, vous voyez les choses dans une lumière que vous n'aviez pas encore vue. Et puis même quelquefois, c'est deux jours après, un jour après, vous voyez les choses dans une lumière encore nouvelle. La lumière suivante a chassé la première, la recouverte. Et puis ça n'en finit pas. On va de lumière en lumière, de perception en perception, toujours plus profonde, ce qui fait qu'Origène disait que le sage n'a pas de demeure fixe. Il rentre toujours plus loin, il s'enfonce toujours plus loin dans la perception. C'est très différent, vous voyez, des personnes qui ont des idées fixes. Ah oui, les personnes qui ont des idées fixes, ces personnes qui s'accrochent à des idées, des personnes qui n'ont pas le sens de la contemplation. Je parle des idées sur la vie, sur les réalités qui demandent à être approfondies continuellement. C'est là où on peut voir, mais je crois que j'en reparlerai, qu'il y a un danger, vous voyez, dans le chemin d'acquisition de la sagesse, qui est celui du savoir, c'est-à-dire de penser posséder la vérité. Une perception, ça ne se possède pas. On voit ou on ne voit pas. C'est donné dans le moment présent. Une perception, ça ne se met pas en bouteille. C'est de l'ordre d'une illumination, comme dit saint Paul, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est une lumière qui est donnée à notre intelligence, qui est comme un œil qui a besoin de lumière. Vous avez bien compris l'analogie. L'œil de notre intelligence, pour voir les choses en vérité, a besoin de lumière. Cette lumière, en définitive, c'est la connaissance de Dieu. Si elle est en contact avec Dieu, si elle touche Dieu dans la contemplation, eh bien, elle sera contemplative dans son regard sur les choses. Mais cette lumière qui lui est donnée par le contact avec Dieu, qui fait qu'elle va pouvoir voir les choses en Dieu, elle ne la possède pas, évidemment. C'est Dieu qui la donne. À un certain moment, je perçois une chose, et le lendemain, je ne l'aperçois plus. Cela dit, quand on a vraiment perçu une chose intérieurement, que Dieu nous a donné une lumière, ce qui est sa lumière, puisqu'il est lumière, Dieu est lumière, ce n'est pas simplement amour, il est lumière. Quand Dieu nous a donné une lumière et qu'on aperçoit en profondeur une vérité par rapport à notre vie, ça peut être aussi par rapport à notre appel, par rapport à toute chose peut être vue évidemment dans la lumière de Dieu. Quand Dieu a donné une lumière, cette lumière était vraiment, je dirais, au niveau de notre cœur, cette intelligence du cœur, c'est-à-dire de l'intelligence qui voit dans la lumière de Dieu, qui est aussi la lumière de l'amour, eh bien, cette perception, même si on ne l'a pas de manière actuelle, elle reste quelque part gravée dans le cœur. Et en même temps, elle va s'approfondir. On la retrouvera jamais comme la première fois. On la retrouvera plus profonde. Alors, ce que je peux faire quand j'ai des lumières, je peux essayer de transcrire avec des mots ce que je perçois. J'écris vite pour ne pas oublier la perception. Mais entre ce que je perçois et les mots que je vais mettre sur un papier rapidement, parce que j'ai peur d'oublier ce que j'ai perçu, il y aura toujours un décalage. Celui qu'il y a entre la perception et le concept. Et donc il faut se méfier de ce qu'on a pu écrire, parce qu'on va le relire quelques jours après, on va dire « mais c'est pas tout à fait ça ». Et vous voyez, ça joue aussi au niveau des révélations privées. Il y a des personnes qui ont des sortes de visions prophétiques, hein, qui peuvent venir de Dieu. Hein, on sent des gens qui sont très spirituels, me dire « mais je vois que vous avez ceci, tout ça ». Et puis en fait, dans l'expression, les personnes peuvent être très spirituelles, et dans l'expression, ben, ça restera des mots humains, elle est liée à leur culture, et l'expression, elle n'est jamais purement... Elle n'est jamais purement divine. Hein. Il y a la perception et l'expression de la perception. Il peut y avoir des gens qui perçoivent bien, mais qui expriment mal. Alors, il ne faut pas vous... faut jamais se rendre dépendant, vous voyez, de prophéties, de révélations privées, comme ça, qui se donnait par des gens qui sentent dans leur cœur que le Seigneur leur dit. Oui, mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Le Seigneur met une lumière dans leur cœur et il l'exprime d'une certaine manière, avec leur culture. La situation la plus parlante à ce niveau-là, la situation d'une personne nouvelle convertie, souvent les nouveaux convertis ont des lumières, et elle m'a dit un moment, c'est étrange, Jésus, il me parle comme moi je parle. Ben, évidemment, puisque j'avais envie de lire, mais évidemment, puisque c'est vous qui le faites parler. Parce qu'en Jésus, c'est très rare qu'il parle lui-même. En fait, on traduit en mots quelque chose qui nous fait sentir. On fait sentir dans notre cœur, puis on traduit en mots. Donc, à la fois, cela vient de lui, et en même temps, c'est nous qui parlons. Progressivement, au fur et à mesure que je m'enfonce dans la perception de la fin ultime du royaume de Dieu, je pose quand même la question pour qu'on soit bien d'accord. Le royaume de Dieu, c'est quoi? La fin ultime. Au niveau intellectuel, là, je me situe. Non, pas de contempler le mystère, ça ne peut pas être donné comme ça dans le cadre d'un cours. Mais soyons bien d'accord, le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, tel qu'il nous est révélé, c'est essentiellement une vie de communion avec notre Père du Ciel, dans le Fils unique, c'est ce pourquoi nous sommes créés, cette vie d'amour filial qui est participation à la vie trinitaire, plus précisément participation à la vie d'amour qui unit le Fils au Père. Nous sommes faits pour vivre dans l'amour en enfant bien-aimé du Père. Nous sommes faits pour participer à l'éternelle circulation d'amour qui unit le Fils au Père. Et c'est en même temps la vraie communion des personnes en Dieu et avec Dieu. Là, la communion des saints, le mystère de cette union des cœurs qui peut se réaliser à l'intérieur de l'union à Dieu. Bref, en réalité, le royaume de Dieu, c'est tout ce à quoi aspire le cœur de l'homme, confusément, parce qu'il a été créé pour cette vie de communion et d'amour. Je vous dis ça, vous pouvez comprendre intellectuellement parce que vous avez fait le catéchisme, mais je vous dis ça sans avoir d'ailleurs de perception particulière. Mais j'insiste, vous voyez, j'insiste pour vous faire comprendre que la sagesse ne vient que quand on touche ce mystère, donc on est en contact, on a vraiment une perception intérieure. Et c'est à ce moment-là que ça transforme la vie. Écoutez la parabole du royaume, telle qu'elle est dans saint Matthieu. Celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Et pour saint Matthieu, la parole, c'est la parole du royaume. Donc la parole qui révèle le royaume. Celui qui entend la parole du royaume et la comprend, celui-là porte du fruit et produit tantôt 100, tantôt 60, tantôt 30. Celui qui entend la parole de Dieu, la comprend. Il dit que ça, saint Matthieu. À partir du moment où je la comprends vraiment, ça change ma vie. Pourquoi le christianisme est-il si peu vivifiant pour beaucoup de chrétiens occidentaux? Et comme j'ai dit, parce qu'il manque la contemplation, et parce qu'il manque la contemplation, il manque quoi en même temps? Qui change la vie. Et qui découle directement de cette perception. Quelle est la vertu qui est éveillée par la perception du royaume? Et qui va donner à ma vie un élan, une force, un dynamisme. L'espérance. L'espérance. Puisque l'espérance, c'est le désir du royaume, comme mon vrai bonheur. Donc je ne peux désirer le royaume comme mon vrai bonheur que si je le perçois intérieurement. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler comme saint Paul. Je vais parler comme saint Paul aux Philippiens. Désormais, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus. La supériorité de la connaissance du Christ Jésus, c'est la supériorité de cette vie d'amour, d'union intime avec Dieu, qui est en définitive le royaume de Dieu, et auquel j'ai accès par la connaissance de Jésus-Christ, qui me fait vivre de sa vie. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet. Même un exégète me disait que littéralement en grec c'était crotte. Je considère tout comme crotte, afin de gagner le Christ, d'être trouvé en lui. Le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme de sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être. Je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Ça, c'est un homme qui espère. Sa vie devient une course, parce qu'il perçoit le but. C'est pas « je sais que je suis fait pour Dieu ». Ça ne suffit pas. Ça peut suffire au début d'un chemin. On a des convictions chrétiennes. C'est bien. Mais ça ne suffit pas pour avancer dans un profond renouvellement de notre vie. C'est la raison pour laquelle Jean-Paul II avait dit qu'il fallait, à la fin de l'année sainte, hein, quand il y a maintenant un peu plus de 7 ans, le 6 janvier 2001, fermer la porte sainte et lancer l'Église dans le troisième millénaire. Il a eu cette expression, il faut repartir de la contemplation du Christ, qui est notre sagesse, quand il dit ça. Repartir de la contemplation du Christ, c'est aussi repartir dans l'espérance. Et vous savez, son premier livre, Jean-Paul II, s'intitulait « Entrer dans l'espérance ». Comme le premier livre de Benoît XVI, c'est « Jésus de Nazareth ». Quand Benoît XVI a écrit son encyclique sur l'espérance, j'ai tout de suite rappelé ce cri de Jean-Paul II « Entrer dans l'espérance ». En même temps qu'entrer dans la contemplation. Il n'y a même pas de doute que Dieu entre vraiment dans les choses humaines. Seulement s'il n'est pas uniquement pensé par nous, mais si lui-même vient nous rencontre et nous parle. C'est dans la feuille que je vais lire, c'est un passage de l'encyclique de Benoît XVI. Dieu, c'est la fin des extraits que je vous ai donnés. Dieu entre vraiment dans les choses humaines, c'est-à-dire Dieu éclaire vraiment les choses humaines. Dieu donne sens aux choses humaines. En illuminant les yeux de notre cœur, pour que, en les voyant différemment, nous puissions les vivre différemment. Parce qu'on vit les choses comme on les voit. Et donc, la parole du royaume, elle ne transforme notre vie, elle ne fait produire du fruit que si elle est comprise avec le cœur. Et à ce moment-là, Dieu rentre dans les choses, il rentre dans notre vie, parce que sa lumière rentre vraiment dans notre intelligence. Et pas uniquement pensé par nous, que ça ne reste pas intellectuel. Et est-ce que si lui-même vient à notre rencontre et nous parle, ça c'est la contemplation. Dieu qui vient à notre rencontre, qui se révèle et qui nous parle. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut se ressourcer? Retrouver un peu d'élan, de dynamisme dans sa vie. On fait une retraite. On fait une retraite et pendant la retraite, on écoute la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu pour qu'elle descende dans notre cœur plus profondément, pour retrouver le contact avec le mystère, la connaissance intérieure de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on peut redémarrer dans l'espérance. On a retrouvé le sens de sa vie. Quelques fois, j'ai senti que j'avais besoin de faire une retraite pour retrouver de l'élan. Celui qui espère dans le Seigneur déploie ses ailes comme un aigle, dit Isaïe. Il court sans se fatiguer. Celui qui espère dans le Seigneur. Les passages exacts, c'est Isaïe 40, verset 31. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Actuellement, c'est un fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont plutôt fatigués. Et si elle me disait qu'ils sont fatigués parce qu'ils sont en manque de contemplation, pour la plupart, ils ouvriraient des grands yeux en disant « c'est pas ça le problème, c'est que j'en ai assez de cette vie-là ». Mais cette vie-là, c'est pas qu'en elle-même, elle soit mauvaise. C'est la manière dont je la vois qui n'est pas juste. Pensez à certaines choses qu'il y a 10 ans, 15 ans, vous viviez très mal, vous trouviez insupportable, que maintenant vous supportez très bien. Pas la chose qui a changé, c'est votre perception de la chose. Voyez, par rapport à une personne hein, que vous ne supportiez pas parce que vous avez une certaine vision de la personne, puis maintenant vous la voyez différemment, vous la comprenez, et bien vous la supportez. La relation a changé parce que la perception a changé.
Benoît XVI, il a compris que le christianisme pouvait se renouveler que de l'intérieur, par une injection de vie contemplative. Il a même dit explicitement, la contemplation de Jésus est la base de tout.
Et c'est en gardant cette parole de Benoît XVI dans mon cœur que j'ai eu le désir de refaire cet enseignement sur la sagesse que j'ai déjà fait plusieurs fois. Je pourrais ici reprendre un passage du livre de la sagesse que je trouve particulièrement éloquent pour distinguer le sage de celui qui ne l'est pas, précisément au niveau de l'espérance, parce que celui qui est vraiment sage, il est animé par l'espérance. S'il n'espère pas, c'est qu'il n'est plus dans la contemplation réelle. C'est dans le livre de la sagesse, c'est au chapitre 2. Le livre de la sagesse laisse parler les impies, qu'ils disent dans leur faux calcul, triste et courte, courte et triste est notre vie. Il n'y a pas de remède lors de la fin de l'homme et on ne connaît personne qui soit revenu de l'Hadès. Donc je ne vois pas le but de ma vie. Et je connais personne qui l'ait vu en réalité. Donc, nous sommes nés du hasard. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Et après quoi, nous serons comme si nous n'avions pas existé. On n'a rien inventé. Et alors, conclusion de ce regard sur la fin ultime, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, de la part de l'impie, conclusion. Eh bien, la conclusion au niveau de la vie concrète, elle est immédiate. Hein. Venez donc et jouissons des biens présents. Usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse. Enivrons-nous de vin de prix et de parfums. Ne laissons pas passer la fleur du printemps. Et il rajoute, opprimons le juste qui est pauvre. N'épargnons pas la veuve. Soyons sans égard pour les cheveux blancs chargés d'années du vieillard. Que notre force soit la loi de la justice. Ça ne vous rappelle pas une parabole? Cet homme qui désespère, l'impie qui désespère, parce qu'il ne voit plus la fin, et il tombe dans une vie de jouissance, hein, et en même temps de violence. Ça ne vous rappelle pas une parabole? Sur un intendant. L'intendant, il y a l'intendant fidèle et avisé. Mais si cet intendant dit en son cœur, mon maître tarde à venir, c'est quoi dire dans son cœur, mon maître tarde à venir? C'est que cette promesse du royaume de Dieu, j'y crois plus beaucoup. Je n'y adhère plus vraiment. C'est loin. C'est abstrait. Ça n'a plus vraiment de signification profonde pour ma vie. Alors qu'est-ce qui fait l'intendant qui dit dans son cœur, mon maître tarde à venir. J'en ai assez d'attendre Dieu. J'en ai assez de chercher Dieu. Je n'espère plus. Eh bien, cet intendant, dit Jésus, se met à frapper les serviteurs et les servantes à manger, boire et s'enivrer.
Sagesse 2. Jouissance et violence. Eh bien, un monde qui s'enfonce dans la désespérance n'a pas s'étonner de s'enfoncer dans une recherche effrénée, comme on dit, désespérée, de jouissance, et en même temps de tomber dans la violence. Mais en disant ça, je ne porte pas, en tout cas de moins en moins, de jugement, parce que je trouve que c'est tellement fatal. On ne voit plus de sens à la vie. Alors on se raccroche à la jouissance immédiate. Puis la violence, c'est une manière de gérer l'angoisse. Vous comprenez que par rapport à cette recherche de jouissance qui prend des formes de perversion de plus en plus grandes, et à cette violence qui est liée aussi à la désespérance, c'est pas en faisant la morale à la jeunesse qu'on s'en sortira. On n'a pas besoin qu'on lui fasse la morale, la jeunesse. Elle a besoin qu'on lui redonne une espérance. Alors, est-ce que l'on peut essayer de décrire le chemin progressif qui va me faire passer d'une conviction, disons, chrétienne, religieuse, à une vie contemplative qui nourrit l'espérance et qui transforme de l'intérieur ma manière de voir et de vivre les choses. Écoutez, je reprends simplement ce qui m'est venu, c'est que beaucoup d'entre nous ont pu commencer par une certaine connaissance intellectuelle de la foi. Et il n'y a pas de raison de déprécier ça, c'est déjà pas mal d'avoir de bonnes convictions. Quand j'étais adolescent, je lisais beaucoup de livres sur Dieu à un certain moment. Et j'avais beaucoup de convictions, notamment sur l'éternité. Il y a une conviction qu'on peut toujours garder, c'est que cette vie est courte par rapport à l'éternité. Mais on a beau se dire ça, moi je trouve, vous voyez, étonnant de voir qu'il y a des gens qui sont chrétiens, et plus ils vieillissent, plus ils sont avares. Plus ils s'accrochent désespérément à l'argent, des possessions, alors qu'ils vont bientôt tout quitter. Mais c'est là qu'on voit que la conviction intellectuelle n'est pas suffisante, parce que si on se raisonne un peu, on se dit, mais quoi ça sert d'accumuler tant de biens de cette façon? Mais non, c'est plus fort que nous, hein. On a tendance, plus ça vient, le grand passage, et plus on s'accroche, si on n'a pas d'espérance. Bon, alors cette connaissance intellectuelle, bon, après, il peut y avoir une connaissance plus méditative. Alors là, c'est l'étape où on commence à lire des écrits plus spirituels. J'ai connu comme ça une personne qui était mariée, qui passait son temps à lire Sainte Thérèse d'Avila au lieu de faire la cuisine, et son mari n'était pas très content. Ça, c'est la méditation. C'est la phase méditative. Bon. Alors, on a l'impression d'être contemplatif, mais en réalité, on est dans la méditation, simplement. Méditation, c'est autre chose que la contemplation. Mais disons qu'on a des pensées sur Dieu qui commencent à nous... ça nous goûte, comme on dit en Belgique. Après, on va avoir des lumières intérieures, vous voyez, mais ponctuelles, qui peuvent être données en dehors d'une lecture de livres spirituels. Habituellement, ceux qui sont dans la méditation, vous voyez, au sens... qui se gargarisent de belles pensées spirituelles, non mais je suis un peu dur en disant ça, mais disons, qui se nourrissent de belles pensées spirituelles, sans voir qu'ils n'ont pas encore vraiment un contact en profondeur avec le mystère, qui reste encore beaucoup au niveau des idées, ils liront plus des livres spirituels que l'écriture elle-même. Et quand on commence à rentrer un peu en contact avec le mystère, on trouve de plus en plus de goût à l'écriture elle-même. Prendre de plus en plus la première place. Parce que l'écriture parle au cœur, elle est faite pour nous faire entrer dans la contemplation, c'est Dieu qui parle. Il y a une force particulière. Moi j'aime bien dire que l'écriture c'est comme un sacrement de la contemplation, c'est un moyen privilégié pour entrer dans la contemplation. Donc on peut commencer à lire l'écriture dans la prière cette fois-ci, au lieu de se délecter simplement de grandes lectures spirituelles, on lit l'écriture dans la prière et on reçoit des lumières. Bon, des lumières particulières, en lisant tel ou tel passage. Il va y arriver un moment où Dieu va faire qu'on n'ait plus tant de lumière comme ça, de lumière précise, mais les choses s'approfondissent et se simplifient, dans le sens de rentrer de plus en plus dans un contact simple avec le mystère. Et c'est ce contact simple avec le mystère qui a proprement parlé la contemplation qui aboutit à un état contemplatif. Parce que ce contact simple avec le mystère qui fait qu'on connaît Dieu, qu'on connaît Jésus dans son cœur, on peut le vivre à tout moment. Et en dehors d'une lecture de l'écriture. Contact intime fait que Dieu est présent à nous, nous présent à lui, que nous demeurons en lui, en sa présence. Si vous voulez, ça s'appelle aussi l'oraison. L'oraison contemplative qui peut être vécue en tout moment en fait de l'existence. Là, vous voyez, il y a des lumières ponctuelles qui sont données avant qu'on rentre dans un état de lumière, si je puis dire, mais d'une lumière qui est permanente, au sens d'une connaissance permanente de Dieu dans notre cœur, qu'on garde, et qui fait que on va voir les choses de plus en plus dans cette lumière qui est de plus en plus profonde intérieure, on va voir les choses de plus en plus dans un regard assez direct, si je puis dire, au sens où on a de moins en moins d'appui sur le raisonnement. C'est de plus en plus de l'ordre d'une perception comme ça qui est donnée. On perçoit. Les autres se perdent un peu dans des réflexions spirituelles, même très belles. Enfin, ils s'appuient sur tel auteur et disent ceci, mais le pape a dit cela, j'ai lu ceci dans tel auteur, ceci, moi je pense que ceci. Puis la personne qui est dans la contemplation, elle dit simplement « je vois ». L'exemple le plus, pour moi, l'un des exemples les plus forts, les exemples les plus marquants, je répète cette histoire, c'est celle de cet homme handicapé, grabataire, que j'ai tenu dans mes bras à l'Arche, c'est encore séminariste. Il était petit comme un enfant de 6 ans, je l'ai tenu dans mes bras pendant bien 20 minutes. Et je le tenais comme j'aurais tenu l'enfant Jésus, d'une certaine manière. Vraiment, j'étais conscient de sa conformation au Christ. Il était aveugle, sourd, muet, et donc handicapé mentalement. Non, il n'était pas aveugle. Il était sourd, muet, et handicapé mentalement. Et je me souviendrai toujours que il était contre mon cœur et j'ai eu un mouvement d'inquiétude à un moment parce que j'ai pensé à l'œuvre et dès que j'ai eu un mouvement d'inquiétude, il s'est mis à crier. Et j'ai compris qu'il y avait un rapport entre les deux et j'ai demandé à la personne
qui était responsable de la maison, s'il avait une sensibilité particulière comme ça, il m'a raconté que cet homme avait perdu sa mère il y a quelques semaines, que pendant tout le temps que sa mère était malade, il criait la nuit, que le jour où sa mère est morte, il a arrêté de crier. Quand on lui a montré une photo de sa mère, on lui a voulu lui faire voir que sa mère était morte avec une photo, il a fait un signe de tête vers la chapelle, jusqu'au tabernacle, il a embrassé le tabernacle et il est revenu. Il n'a jamais pu comprendre avec son intelligence intellectuelle ce que c'est que l'Eucharistie. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de connaissance au sens humain du terme. Il n'y a que le contact avec le mystère. Et il a eu l'attitude juste. Il a rendu grâce au Christ, il a remercié Jésus. Sans mots. Ça vient directement du cœur. Les gestes qui viennent directement du cœur. Un cœur qui est illuminé par Dieu. Comme un nouveau-né, incapable de penser, voyez. Mais le cœur est habité par Dieu, il y a une lumière, et de cette lumière jaillit le geste juste. Alors ça c'est la contemplation à l'état pur.
Alors lui, il est dans un état contemplatif. Tu es béni, Père, d'avoir caché ça aux sages et aux intelligents, d'avoir révélé le plus petit, il est enfoncé dans la connaissance de Dieu. Une personne comme ça, je considère qu'elle connaît plus Dieu que moi. Je ne veux pas juger, mais je l'aperçois comme étant plus en contact avec le mystère que moi. Donné comme ça par grâce. Ça, c'est le fond de la contemplation, il est pur contact. C'est plus des lumières, il n'y a pas eu des lumières sur l'Eucharistie. Le mystère d'amour de Dieu qui se donne et tout ça, aucune lumière particulière, je veux dire, simplement le contact. Une autre chose, vous voyez, qui peut nous faire réfléchir, c'est précisément des personnes qui sont que j'ai connu comme à l'hôpital des personnes mourantes, qui ont une soif, un amour pour l'Eucharistie, qui m'a personnellement énormément touché, parce que ce sont des personnes qui sont dans un état où les facultés intellectuelles ne peuvent plus s'exercer, et il ne reste plus que ce sens de la présence. Contact, encore une fois. Et le contact avec Dieu, donc, qui est le cœur de la vie contemplative, le contact avec Dieu, il est donné d'une manière, je dirais, directe, immédiate, dans l'Eucharistie. Jésus dit, celui qui me mange, mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle. Et il dit, juste, dans le même évangile après, il dit la vie éternelle, c'est de te connaître, toi Dieu le Père, celui que tu as envoyé. Donc celui qui mange ma chair et boit mon sang connaît Dieu. Et pourtant il ne se passe rien au niveau de la tête. C'est un contact, comme dirait Saint Jean de la Croix, c'est un toucher de substance à substance. De personne à personne, d'esprit à esprit. Il n'y a pas de place pour la connaissance intellectuelle dans la communion eucharistique. C'est Dieu qui se donne, mais qui se donne à connaître en réalité et à connaître intérieurement par notre esprit qui goûte le mystère, qui est en contact avec le mystère par un don substantiel. Qui fait que la parole de Dieu est un sacrement de contemplation, mais on pourrait dire encore plus l'Eucharistie. Dans la parole de Dieu, dans l'Écriture, c'est notre intelligence qui a besoin de comprendre, qui est nourrie. Mais dans l'Eucharistie, c'est notre esprit qui a besoin de toucher, qui est nourri.
Mais en réalité, dans le contact avec la parole de Dieu aussi, Dieu se donne directement. Il arrive souvent qu'en lisant l'Écriture, nous puissions sentir Dieu qui se donne à nous, au-delà des lumières particulières que nous avons sur telle ou telle signification de tel ou tel verset. Alors, on pourrait reprendre ça dans la lumière de la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples. Dans Saint Jean, le premier chapitre. Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples, regardant Jésus qui passait. Ça, c'est le regard du contemplatif. Jean-Baptiste, évidemment, un modèle de contemplatif. Regardant Jésus, voyant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Vous voyez, il a une lumière qui lui est donnée sur le mystère du Christ. Et alors, les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Eux ne sont pas encore dans la contemplation. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils entendent les paroles de leur maître, Saint Jean-Baptiste. Et ils se mettent à suivre Jésus. Mais c'est ce qui s'est passé pour la grande majorité d'entre nous. Nous n'avons pas eu de lumière, de révélation intérieure dans notre chemin de foi au départ, mais nous avons entendu des personnes qui connaissaient Dieu et qui nous ont parlé, et nous avons cru en leurs paroles, et nous avons commencé à suivre Jésus, à suivre ses commandements. Nous avons fait le catéchisme. Je dois vous dire que ma plus grande joie, c'est de faire le catéchisme. Parce que ce qu'on peut semer dans des âmes d'enfants, c'est tellement important. Cette première parole, même s'ils n'ont pas encore peut-être de vie contemplative, ils ne sont peut-être pas encore capables, pour la plupart ils ne savent pas bien ce qu'est la prière, mais ils écoutent quand même. Ils écoutent et ils s'accrochent à une parole, ils font confiance. Et donc les deux disciples ont fait confiance à Saint Jean-Baptiste. Et sur sa parole, ils ont commencé à suivre Jésus. On ne sait pas combien de temps ils ont suivi Jésus. Vous voyez, ça, je dirais, c'est la foi de conviction. On adhère à un message, on adhère à une doctrine, et on commence à suivre Jésus. Bien. Et il est dit juste après, Jésus se retourna, et voyant qu'il le suivait, Jésus est touché, et touché par la fidélité. On passe des années à essayer de rester fidèle à l'Évangile, au commandement de Dieu. On est catholique par conviction et on entend bien le récit. Et il nous a dit, Jésus se retourna. On n'a pas dit qu'il se retourna tout de suite. Mais ici, j'aime bien dire que ces deux disciples qui suivaient Jésus le voyaient de dos. Comme Dieu qui dit à Moïse, tu ne verras que mon dos. Tu ne verras que je vais passer devant toi, mais tu ne verras pas. On veut voir la face de Dieu. Jésus se retourne, il demande sa face. Dieu demande sa face en nous donnant son Fils. Nous contemplons le vrai visage de Dieu en regardant Jésus qui est le Dieu invisible, très visible. C'est fait chair pour pouvoir se retourner et que nous puissions voir sa face. Donc le Verbe fait chair se fait connaître. Celui qui garde mes commandements, dit Jésus, c'est celui-là qui m'aime, et mon Père m'aimera et je me manifesterai à lui. Jean 14, 21. Donc Jésus se manifeste pour la première fois. C'est une première manifestation. Ce n'est pas encore la contemplation, au sens fort du terme, mais c'est une grâce ponctuelle qui leur est donnée de voir le visage de Jésus. Alors, il leur dit, que cherchez-vous? Ici, c'est Jésus qui cherche à réveiller l'espérance. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie? Quel est votre trésor? Tu as commencé à voir mon visage, maintenant, qu'est-ce que tu cherches? Tu as commencé à goûter la beauté de mon visage, mais maintenant, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Il lui dit, Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Ils ont utilisé l'expression rapide, le maître. Qui dit maître dit sagesse, maître de sagesse. Ils ont soif de vérité.
Ils ont soif de connaître Dieu. Rappelez-vous la parole d'un autre disciple, Philippe. Philippe qui dit à Jésus, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et ici, il pressent que Jésus connaît Dieu, peut faire connaître Dieu, qu'il est le vrai maître, le vrai sage. Et il lui demande « Où demeures-tu ?» Autrement dit, il veut connaître plus profondément Jésus. Il veut connaître où il demeure et, si je veux dire, d'où il tire sa beauté et la lumière qu'il rayonne. Et je pose la question, où demeure Jésus ? Jésus demeure dans le sein du Père. Il demeure dans son Père. Le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Il était auprès de Dieu. Il était tourné vers Dieu. Il était dans le sein de Dieu, le Verbe qui s'est fait chair. Et il demeure tourné vers Dieu. Il demeure dans le sein du Père, tout en étant descendu du ciel. Et donc, où demeures-tu ? Ici, ça devient, révèle-nous ta vie intime. Révèle-nous ce qu'est ta vie véritable, qui n'est autre que cette vie d'amour filial avec le Père. Et Jésus leur dit, venez et voyez. Venez et voyez, venez et contemplez. Continuez maintenant, suivez-moi plus profondément, venez avec moi et voyez. Voyez où je demeure. Entrez dans mon intimité. Entrez dans ma relation avec le Père. Entrez dans ma vie filiale. Ils vinrent donc, continuent à suivre Jésus. Ils vinrent donc et virent où il demeurait. Et ils demeuraient auprès de lui. Ce jour-là, ils virent où il demeurait et ils demeuraient. Ils entrent dans ce qu'ils voient. C'est la contemplation qui transforme la vie. Ils demeurèrent avec lui là où il était. Ils entrent dans la vie de Jésus. Quand on commence à contempler vraiment Jésus, on rentre dans sa vie. Et donc notre vie se transforme de l'intérieur. On se contacte avec le mystère. J'ai pensé que nous pouvions, en parallèle, relire l'évangile des rois mages. C'est un autre chemin, ici, qui est indiqué. Je voulais laisser, donc, un peu par écrit, mais je vous invite à voir le chemin donc, que font les mages. Des mages venus de loin, loin de la foi monothéiste, venus d'Orient. Des mages, c'était des personnes qui avaient une culture et une vision de la vie particulière. Vision de la destinée humaine particulière qui devait être liée donc plus ou moins à des calculs astrologiques. D'ailleurs, Benoît XVI en parle dans son encyclique sur l'espérance. Et ils arrivent à Jérusalem.
Ils arrivent finalement à Jérusalem à travers leur culture, à travers leurs calculs mêlés de conceptions erronées sur la destinée humaine. Ils arrivent à Jérusalem avec leur intellect, avec leur raisonnement, mais ils y arrivent quand même. Dieu les prend comme ils sont, avec leur culture, mais ils arrivent quand même jusqu'à Jérusalem parce qu'il faut croire que confusément ils recherchent vraiment la vérité, sans connaître encore vraiment Dieu, le vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc ils vont poser la question: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre se lever, nous sommes venus lui rendre hommage. Et ici, vous voyez, il y a ce contraste entre les mages d'un côté, qui sont dans une recherche sincère de la vérité, et le roi Hérode, qui s'émeut, et tout Jérusalem avec lui, qui n'est pas prêt à accueillir donc cette révélation du mystère, et qui fait appel donc aux sages, aux scribes, aux intellectuels de Jérusalem, ceux qui possèdent la science. En fait, Hérode ici, il est dans la possession. Il est dans la possession, il est dans le pouvoir. Savoir, pouvoir. Il veut en savoir plus pour préserver son pouvoir. Et il n'est pas en état d'accueillir le mystère. Les mages, ils ont leur savoir, mais ils sont en recherche. Tu es béni, Père, d'avoir caché ça aux sages et aux intelligents, à ceux qui possèdent un savoir, d'avoir révélé aux tout petits. Les mages, eux, ils sont quelque part en chemin vers une certaine pauvreté en esprit, ils posent une question. Ils posent une question, ils se font mendiant d'une vérité qu'ils savent ne pas connaître, qu'ils reconnaissent ne pas connaître. Ils sont dans cette attitude de recherche que Dieu aime et qu'il cherche à susciter chez tout homme de bonne volonté. Et donc, Hérode, à ce moment-là, s'appuyant sur le savoir pour préserver son pouvoir, va chercher à utiliser les mages en leur demandant d'aller se renseigner exactement sur l'enfant. Mais il se fait prendre dans ses calculs, il est pris à ses propres calculs, qui sont des calculs de mort. Puisque, en définitive, les mages vont lui échapper. Alors, ce qui est beau dans ce passage-là, c'est que les mages vont suivre les renseignements donnés par Hérode, dans la malice de son cœur, puisqu'il a probablement déjà décidé de tuer l'enfant. Mais voyez ici que, dans la recherche de la vérité, dans cette recherche de la vérité, Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qui sont de bonne volonté. Et qui parle hommage à la fois à travers les astres, malgré de faux calculs illusoires, comme aussi il parle à travers un roi d'une cruauté qui a laissé un souvenir dans l'histoire. Vous savez qu'Hérode était un monstre, entre guillemets. Ce n'est pas les premiers enfants qu'il faisait tuer, innocents, il en a tué d'autres. Je crois qu'il a tué ses propres fils pour préserver son pouvoir. Et Dieu qui passe à travers ça. Et Dieu qui guide les mages à travers ça. Vous voyez, ça, c'est le moment où on est dans la connaissance intellectuelle, on est dans éventuellement une certaine méditation, on connaît pas encore Dieu. Mais Dieu nous guide malgré tout à travers des instruments. Il nous fait lire tel livre, telle page, telle parole, telle rencontre. Et on va être guidé comme ça, un peu comme des aveugles qui marchent à tâtons. En fait, on voit rien, on comprend pas bien, mais on est guidé quand même. Et alors, on peut se poser la question, à un moment, les mages jusqu'ici se sont laissés guider par des choses extérieures. Les astres et le roi Hérode. Et il nous est dit qu'il y a une étoile qui apparaît. Et l'étoile qui apparaît, ils se réjouissent de l'étoile. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que signifie cette étoile qui apparaît et qui éclaire d'une manière nouvelle les mages? Mais on peut voir dans cette étoile, vous voyez, les lumières particulières que Dieu nous donne à certains moments, quand on a persévéré dans une certaine recherche sincère de la vérité. Il y a des lumières particulières qui nous sont données, qui correspondent à ce que je vous ai dit par rapport à nos étapes de la contemplation. On a des lumières qui peuvent nous être données, donc, notamment à travers les saintes écritures, mais qui peuvent nous être données aussi comme ça de manière assez mystérieuse, c'est-à-dire sans qu'il y ait de cause seconde. Alors, il nous est dit que ils se réjouirent d'une très grande joie à la vue de l'astre. Et entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie. D'abord, il y a la joie des lumières intérieures que Dieu nous donne, et ensuite, il y a la joie, bien plus grande encore, de la rencontre avec le Christ. C'est cette rencontre avec l'enfant, au moment où il rentre dans le logis, où demeures-tu, il rentre dans l'intimité du Fils de Dieu. On passe d'une certaine connaissance méditative plus ou moins contemplative à une vraie contemplation. Comme on disait au XVIIe siècle, la connaissance intérieure de Jésus-Christ. Il rentre dans le logis. Rentrer dans le logis, c'est aussi rentrer dans son cœur, là où Dieu parle, là où Dieu demeure lui-même et là où il se révèle. On peut dire aussi que se rentrer dans le logis, c'est le chemin de l'intériorité. Mais en fait, on est appelé à demeurer dans le logis. Maître, où demeures-tu? Ils demeurèrent auprès de lui, dans sa maison, qui est la maison du Père. Demeurer dans la maison du Père, là où est Jésus, le Fils bien-aimé du Père, c'est demeurer en présence du Père, comme des enfants bien-aimés. C'est vivre de Dieu. C'est vivre en Dieu. C'est ça la vie éternelle. Commence dans le cœur de l'homme. Nous avons un pape contemplatif qui ne cesse de nous dire que le monde est malade parce qu'il a perdu la connaissance de Dieu. Tout simplement. Il a perdu le contact. Et la raison se retrouve, comme disait Jean-Paul II, prisonnière d'elle-même. Elle marche à vide. Elle se perd dans ses raisonnements parce qu'elle n'a plus de lumière. Elle ne voit plus le sens des choses. Elle raisonne sans qu'il y ait une perception derrière. Alors, Benoît XVI a commencé son pontificat avec l'évangile des Romains. Comme
toutes les marges des grands mages. Et il a fait, devant 1 million de jeunes européens, une homélie sur cet évangile pour expliquer la nécessité de la contemplation et de l'adoration. Il n'y a pas de contemplation sans adoration, ni d'adoration sans contemplation. C'est tout un. Et l'évangile nous dit qu'il est reparti par un autre chemin. C'est une vie nouvelle qui commence. Repartir de la contemplation du Christ. Là, vous voyez, notre humanité qui avait plein d'idées intellectuelles, et qui en a assez des idées intellectuelles. Surtout la jeunesse en a assez. Un savoir qui n'arrive plus à se transmettre parce qu'il est vide. Les universités qui sont en crise, l'école qui est en crise, l'intelligence humaine qui est en crise. Mais derrière cette crise, il y a une immense soif, un immense cri qui est le cri vers Dieu, vers la connaissance de Dieu. Donc, ça me vient maintenant à l'esprit que c'est providentiel que Benoît XVI ait commencé son pontificat avec cette journée mondiale de la jeunesse à Cologne, et qui était l'évangile du roi mage, l'évangile avec lequel Jean-Paul II a inauguré le troisième millénaire. C'est pour ça que j'ai intitulé ce premier cours « Suivre le chemin des rois mages ». De la bonne volonté à la contemplation. Je propose simplement de demander dans votre cœur, à la fin de ce cours, de prier le Seigneur qu'il vous apprenne à suivre ce chemin, qu'il nous apprenne à nous laisser guider par lui jusqu'à une vraie contemplation de son visage pour que notre vie soit transformée de l'intérieur et que notre vie étant transformée de l'intérieur, nous puissions laisser voir celui que nous voyons. C'est-à-dire ce qui est en jeu, aussi à travers cette question de la contemplation de la sagesse, c'est tout simplement la nouvelle évangélisation. Parce qu'on ne peut laisser voir quelqu'un au monde que si on le connaît, que si on le voit soi-même. Et le monde ne peut pas se contenter d'entendre parler de Jésus, il veut le voir sur nos visages et dans notre vie.